Ah, j'étais déjà en train de discuter avec Annie Boilard de l'été, puis que c'est pas nécessairement notre saison préférée. Salut Annie Boilard!
Bonjour Valérie!
Ben oui, c'est ça, je fais des blagues parce que les gens me connaissent, là. Ils savent que je suis une fille d'automne, j'aime ça quand il fait noir de bonne heure, j'aime pas ça quand il fait trop chaud. Et je dis que le 21 juin, les journées vont commencer à raccourcir et ça me réjouit, mais je pense que t'es dans mon équipe un peu, là.
Ben oui, on a des choses en commun. Moi, je trouve que parfois, les longues périodes d'ensoleillement du mois de juin viennent affecter mon sommeil, puis je cumule un peu plus de fatigue. Fait que je m'en rends compte, c'est vrai qu'on se sent à l'opposé de tout le monde, parce que alors qu'à l'automne, où les gens sont souvent un petit peu plus « down », nous, on pète d'énergie, puis à ce temps-ci d'année, quand tout le monde est heureux, nous, on fait « vous êtes pas un petit peu fatigué? » C'est vrai qu'on se sent un petit peu à l'inverse.
C'est parce qu'on est des petits coqs, on se lève de bonne heure.
C'est ça.
Annie, justement, dans ton sujet cette semaine, on parle des vacances, justement, qui s'en viennent. Puis là, il faut régler des dossiers, on a des réunions, il y a des trucs qu'on veut sortir de la tête avant de quitter. Puis là, tout le monde est dans le jus. Est-ce qu'on est efficace quand on est occupé? C'est une bonne question, ça.
Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on est occupé qu'on est nécessairement efficace et l'inverse?
Ben oui.
Bon. Valérie, on en passe du temps à se demander « Hey, comment ça va? » Puis là, on répond « Ah, oh, je suis occupée, puis je suis débordée, puis je suis dans le jus, puis ça roule. » Puis on passe beaucoup de temps à partager notre niveau d'occupation comme ça aux gens, comme s'il y avait quelque chose de nouveau là-dedans, comme si c'était bien original comme réponse. Alors que dans les faits, je lisais un article de Harvard Business Review qui nous disait que 80% des gens en Amérique du Nord répondent à la question « Comment ça va? » par une indication de leur niveau d'occupation. Fait qu'on voit, hein, c'est quelque chose qu'on répète. Puis, c'est devenu un peu comme une badge d'honneur. C'est que le fait d'être occupé, c'est une façon de démontrer notre valeur dans la société. Il expliquait dans l'article qu'il y a un siècle, c'était nos loisirs qui témoignaient de notre importance dans la communauté. Et aujourd'hui, en 2025-26, ce serait notre niveau d'occupation.
Donc, c'est un réflexe qu'on a de dire qu'on est occupé tout le temps.
C'est ça, c'est un réflexe un peu inconscient. Parce que lorsque nous disons « je suis occupé », on dit aussi en même temps « hey, je suis importante, j'ai de la valeur, je crée de la valeur ajoutée. » On dit aussi, j'ai des compétences, je suis apte à travailler. C'est un peu un privilège, hein, de se sentir utile, d'être occupé. Puis c'est ça qu'on dirait en filigrane toujours. Et c'est pour ça qu'on ressent le besoin de le dire tellement que nous sommes occupés. C'est parce que c'est une façon de dire, je suis importante, entre guillemets. Mais comme tu le disais, le problème, c'est qu'il y a toute une nuance entre être occupé puis être efficace.
Puis Annie, je suis contente parce qu'encore une fois, visiblement, je ne suis pas comme tout le monde. Quand je pose la question, je veux vraiment savoir comment la personne va côté, comment tu vas là, la santé, le moral, comment ça se passe. C'est pas ma première idée. Puis moi, quand je réponds, je réponds aussi par cet aspect-là. C'est bizarre, hein?
Ben oui, c'est vrai que ça nous fait prendre conscience de certains paradoxes parce que la question comment tu vas, elle fait référence à l'état d'être.
Ouais.
Et la réponse, quand on répond notre niveau d'occupation, on répond par ce qu'on nous faisons. Et on voit, hein, il y a quelque chose, c'est comme si on valorisait plus ce que nous faisons que ce que nous sommes comme personne.
Ben, je vais garder mon idée, Annie, tu viens de me convaincre là-dessus. L'excuse, j'ai pas eu le temps, c'est fréquent. Est-ce qu'on l'accepte trop facilement?
Hé, hey, Valérie, c'est comme le petit cousin-cousine, là. Je suis bien occupée. Le petit cousin-cousine, c'est « j'ai pas eu le temps de le faire », ça vient ensemble. Puis moi, je partage ton opinion, là. Je pense que oui, on l'accepte trop facilement. C'est comme si ça a les épaules larges, « j'ai pas eu le temps de le faire ». Ça camoufle plein de choses. Parfois, ça va camoufler un « hey, ce que tu me demandes, là, j'aime pas ça, faire ça ». Fait que je te le dirai pas, mais je te dirai que j'ai pas eu le temps de le faire. Ou encore « oups, j'ai oublié de faire ce que tu m'as demandé, mais je veux pas te dire que je l'ai oublié, je vais te dire « ah, oh, j'ai pas eu le temps ». Puis là, ben, on va accepter. Des fois, ça camoufle quelque chose du type « je préfère faire autre chose ». Des fois, c'est « je ne te fais pas confiance, je veux protéger mon agenda, alors je vais te dire « j'ai pas eu le temps » ou « je n'aurai pas le temps de le faire », alors que dans les faits, le problème subséquent, c'est un enjeu de confiance. Puis ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il se cache bien des choses derrière un « j'ai pas eu le temps ». Mais l'enjeu, c'est que si on le prend au premier niveau, ben la solution, c'est « ben je vais te donner une semaine de plus, je vais te donner plus de temps pour le faire ». Alors que dans les faits, ben souvent les gens ont besoin d'autres choses. C'est pas ça le cœur du problème. Donc on gagne à être plus précis dans notre vocabulaire.
C'est quoi les incidences sur les équipes quand chacun dit qu'il est constamment occupé?
Oui, à se dire toujours qu'on est débordé. D'abord, oui, ça a des conséquences. Merci de poser la question parce que des fois on a l'impression, ben c'est juste une façon de se dire bonjour là, c'est insignifiant, c'est un réflexe, ça n'a pas d'importance. Mais si, ça a de l'importance. Parce qu'à faire ça, on colporte toujours des messages d'urgence, d'insuffisance. Puis aussi, on vient banaliser les moments où on est vraiment occupé. Parce qu'à se dire qu'on est occupé 365 jours par année, c'est ça que ça finit par faire. Puis si on creuse, Valérie, puis on se demande, tu sais, ça serait quoi ne pas être débordé au travail? Est-ce que ça veut dire j'ai fini de faire tout ce que je voulais faire, tout ce que je devais faire, puis il me reste du temps dans mes mains? Parce que si c'est ça qu'on attend pour ne pas être débordé, on va attendre longtemps, là. Mmh. Ça arrive pas souvent. Est-ce que ça veut dire j'ai quelque chose à faire? Il y a des gens comme ça, Valérie. Aussitôt qu'ils ont une chose à faire, là, ils deviennent débordés tout de suite. Ils voudraient avoir terminé avant de commencer. Ouais. La réponse, c'est non. Ou encore, mon patron me confie pour 8 heures de travail, voire 9 heures de travail par jour. Fait que je suis débordée. Mais non! Si ton patron te paie pour 8 heures de travail par jour, c'est certain qu'il va te confier pour au moins 8 heures de travail, sinon 9 heures pour forcer la priorisation. C'est pas être débordé, ça c'est bienvenu en 2026, c'est ça le monde du travail. Fait que pour moi, être débordé, ça voudrait dire je n'arrive pas à faire toutes les choses urgentes et importantes que je dois faire et ça me cause du stress. Alors là, oui, quelqu'un va être débordé. Fait que l'enjeu ici, c'est préciser ce qu'on veut dire, tu sais, puis faire attention à ses habitudes de communication parce que oui, ça a des incidences.
Puis Annie, il y a plusieurs emplois. Le mien, le tien, j'en suis convaincue aussi, c'est que c'est jamais fini. Tu sais, si on veut travailler l'infini, on peut, là, toujours quelque chose à faire. Faut aussi essayer de doser nos affaires.
Ben exactement, exactement. Puis là, les gens vont dire, ben il reste des choses que je souhaiterais faire, donc je suis débordée. Ah ben non, attends un petit peu là, parce qu'on va être débordé jusqu'à la fin des temps là, si on regarde ça comme ça.
Pourquoi les entreprises encouragent les cultures d'occupation?
Bon, ça c'est une grande question parce qu'elles font face à un paradoxe, les entreprises, mais parfois ce sont les équipes aussi. Elles souhaitent dans les faits être efficaces, mais souvent elles se retrouvent à valoriser les comportements qui représentent une culture d'occupation. Puis là, ben elles font fausse route. Fait que je démêle les cartes, Valérie. Une culture d'occupation, là, c'est le genre de culture où on dit oui à tout, on règle tous les problèmes dans l'immédiat, on répond rapidement à tous nos courriels, textos, messages et compagnie. C'est le royaume du multitasking, donc le multitâche. On va entendre des trucs du type « ma porte est toujours ouverte », mais en même temps « oh, j'ai pas eu le temps » parce qu'évidemment, ma porte est toujours ouverte, fait que je fais autre chose.
Non.
On finit par valoriser la quantité du travail, l'extrême disponibilité, puis on reconnaît ceux qui disent oui à tout puis qui ont le nez partout. Mais ça, c'est pas être efficace. Une culture d'efficacité, à l'inverse, on va travailler sur des objectifs clairs, on va pas se mettre à réagir à toutes les demandes, on va accepter qu'il va y avoir des délais aux réponses à nos questions, même on va l'encourager. Ce sera pas le royaume du multitâche, ça va être le royaume du focus. Puis parfois, les portes vont être fermées, puis on va être correct avec ça. On n'entendra pas les gens nous dire « j'ai pas le temps », parce que les gens vont prendre le temps de faire les choses qui sont importantes. Fait que dans une telle culture, on va féliciter les résultats, on respecte ceux qui disent non, puis on va s'inquiéter quand on va voir des petites poules pas de tête. Fait qu'on voit, ce sont des cultures différentes. Souvent, on souhaite des cultures d'efficacité, mais dans l'action, on valorise les comportements qui supportent une culture d'occupation.
Puis là, on le voit, Annie, c'est une femme super occupée, puis malgré tout, depuis 4 saisons, à 7 heures-ci, les mercredis, elle est capable de prendre quelques minutes pour discuter d'un sujet. Là, tu vois, ça se fait.
Et c'est toujours avec grand plaisir, Valérie, qu'on décortique le monde du travail ensemble.
Bien, ce sera notre dernière la semaine prochaine, mais tu peux déjà nous annoncer que tu vas être là pour la rentrée.
Absolument, avec grand plaisir.
Merci, Annie Bollard, spécialiste en ressources humaines, la présidente du réseau Annie RH. On se dit à la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bonne semaine. Bye.